Jean-Marie Roussignol, bonjour.
Bonjour.
Pierre Chevalet, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier pour évoquer l'Institut de coopération avec l'Europe orientale, l'ICEO, dont vous êtes tous les deux des représentants. Après des émissions sur les Roms, leur scolarisation, l'aspect culturel des Roms, nous allons envisager aujourd'hui un problème, en tout cas un sujet, beaucoup plus global, la géopolitique. La géopolitique, ça intéresse l'Institut de coopération avec l'Europe orientale, Pierre Chevalet.
Alors, la géopolitique, ça intéresse l'Institut de coopération avec l'Europe orientale, mais parce que ça intéresse toute l'humanité. C'est-à-dire que les gens qui disent « moi, je ne fais pas de politique », ou qui diraient « je ne fais pas de géopolitique », c'est qu'ils vivent...
Sur une île déserte ?
Ils vivent dans l'illusion. Parce que, je donne un exemple simple, si vous vendez des pommes, que vous êtes au Vigan et que vous vendez des pommes, et que vous vendez vos pommes à la Russie, comme vous avez eu la chance de le faire pendant des années, et que d'un seul coup, pour des raisons géopolitiques, on ne vous achète plus vos pommes, vous ne faites pas de la géopolitique, mais voilà. Ceux qui ne vous achètent plus les pommes, ils le font.
Voilà, vous la subissez.
Voilà, et donc, on voudrait expliquer aux gens que dans tout un tas d'actions, il faut se donner la peine d'essayer de connaître l'histoire des gens. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens, si vous négligez leur histoire et leur géographie, par définition, vous recourez à la catastrophe. Hein. C'est-à-dire faire alliance avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est prendre le risque de l'amour aveugle. Et l'amour aveugle, quelquefois, il termine très très mal.
Très très mal. Alors, Jean-Marie Roussignol, le fait d'avoir créé une Union européenne, est-ce que ça n'a pas rendu ces soucis géopolitiques plus proches, normalement, en théorie, des Français, puisque nous sommes en France ?
Ça devrait les avoir rendus plus proches. On sait que souvent les Français vivent un peu dans un bocal, dans leur hexagone, et ont du mal à s'ouvrir au reste du monde. Pas tous, là aussi je généralise. Bon. Mais il est évident que l'Europe, par sa position géographique, doit tenir compte de son environnement, des avantages que lui donne sa position géographique, et des inconvénients ou des risques que cette position peut entraîner. Pour nous aussi à ICEO, nous intéressons par définition et par vocation à l'Europe centrale et orientale, qui couvre aussi bien les Balkans que les autres pays de la plaine plus nordique, si on veut parler de relief, nous sommes souvent confrontés aux diverses influences qui agissent sur ces pays, soit du fait de l'histoire qu'elles ont vécue pour avoir été, par exemple, intégrées pendant 5 siècles dans l'Empire ottoman, et de voir ce qui se passe actuellement dans ces pays-là en raison de ce passé historique et en raison des politiques actuelles qui reviennent sur le tapis international. D'autre part, si nous constatons que l'Europe se trouve en situation de pont central entre l'Occident, vraiment occidental, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, et la Russie actuelle de notre côté, mais aussi la Turquie, dont on voit qu'elle reprend de la vigueur et qu'elle essaie de reprendre pied aussi dans les Balkans. On doit se positionner en fonction des intérêts de l'Europe et des pays qui la composent, et pas de façon idéologique en considérant que la Russie, c'est toujours, par exemple, l'Union soviétique, c'est plus le cas, que l'Occident a toujours raison dans ses positions vis-à-vis du reste du monde. Il faut essayer d'étudier les problèmes de façon objective, idéologiquement neutre, et en fonction de nos intérêts. La plupart des pays dans le monde fonctionnent en fonction de leurs propres intérêts et se positionnent en fonction de ces intérêts-là, quelle que soit leur idéologie par ailleurs.
Que faudrait-il, Pierre Chevalet, percevoir aujourd'hui de l'importance de l'Union européenne ou certains pays ou d'autres sujets importants aujourd'hui dans cette Union européenne ?
Je veux dire que, au niveau de la construction de l'Union européenne, on voit aujourd'hui ces dysfonctionnements qui ont poussé les Anglais à voter le Brexit, qui poussent tout un tas de gens à être critiques vis-à-vis de la construction européenne. Et je crois que ça vient d'une illusion qui a été entretenue, de croire que que le miracle européen allait pouvoir se développer à l'infini et que l'exemple franco-allemand allait pouvoir se décliner dans toutes les directions et sous toutes les latitudes. Je pense que les gens ont complètement sous-estimé le miracle de la construction européenne entre la France et l'Allemagne. Et je crois que les gens ont complètement sous-estimé l'apport que les Français ont apporté à cette construction européenne. Parce que sortant dans le camp des vainqueurs en 1945, qu'ils aient accepté d'apporter leur pardon au peuple allemand et d'accepter de faire le pari de quelque chose avec eux, c'est quelque chose qui s'est pratiquement jamais vu. Mais c'est les Français qui l'ont fait ça. Faut pas nous raconter d'histoire, les Allemands. Nous, on leur apportait la paix et ils ne pouvaient pas la refuser. Donc la partie allemande par rapport à ça, elle est nulle. Eux, ils étaient dans une situation, de toutes les façons, ils étaient obligés de dire oui. On leur faisait un cadeau, ils auraient été stupides de le refuser. Donc, et pourquoi les Français ont été capables de faire ça? Alors là, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que la guerre de 14-18, suivie dans la foulée de la guerre de 1939, avec le drame de la guerre de 1939, et surtout, ce qui a été le déterminant, c'est la longue captivité des Français, des soldats français. 4 ans de captivité dans tous les villages allemands. Ça a ouvert les yeux à toute une génération de Français et qui ont pu voir que les Allemands, ils n'étaient pas tous nazis et qu'avec eux, on pouvait s'entendre. Tous les paysans français qui ont travaillé dans les commandos, dans les fermes allemandes, en ont gardé un souvenir ému. Et donc, eux, quand on leur a dit « il faut faire la paix avec les Allemands », ça a été très facile pour certains. C'était d'autant plus facile que certains avaient déjà fait la paix avec la fermière pendant que le mari était sur le front de l'Est. Ça, c'est une réalité, ça. Et cette réalité a permis ce miracle. Alors, la France et l'Allemagne, les Italiens qui ont vécu un peu la même chose, les Belges qui ont vécu la même chose, les Hollandais... Ça a été relativement facile, puisqu'on avait ce vécu commun. Mais à partir du moment où le cercle s'est élargi, alors là, ça a changé des choses. Et comme par hasard, dès que les Anglais sont rentrés, vous avez pu remarquer que la donne a changé. Et alors, surtout, c'est que après, on a construit idéologiquement un discours qui n'était pas opératoire du tout. C'est s'imaginer que l'Europe était capable de faire des petits Européens. Et qu'elle allait générer... qu'elle allait faire un homme nouveau, hein, homo europeanus, là, et que ça se ferait comme ça. Mmh. Et c'est là que le problème commence. C'est-à-dire que, quand on a fait rentrer la Grèce, on s'est dit, ça va faire des Européens de plus. Mais ce que les gens ont cru, c'est que ça ferait des Européens de plus, mais que ça ferait des Grecs en moins. Or, les Grecs, ils sont restés Grecs. Et quand on découvre qu'on a versé des subventions aux paysans grecs, dans le cadre de la politique agricole commune, subventions qui sont versées sur des déclarations de surface exploitées, et que c'est un espace où il n'y a pas de cadastre, on se demande qui est à blâmer. Est-ce que c'est le paysan grec qui a pris des sous? Il aurait été bien bête de refuser, ou celui qui lui a attribué ses sous. Donc,
une gestion pas tout à fait efficiente.
C'est surtout méconnaissance de la réalité. C'est-à-dire que les Grecs, ils ont quelques siècles d'histoire, comme ça vous aura échappé. Et donc, ils ont vécu sous l'Empire ottoman, comme l'a très bien dit Jean-Marie. Et en Roumanie, c'est la même chose, etc. Or, vu de Bruxelles, tous les Européens sont... Mais, Quand les gens disent, par exemple avec Erasmus, c'est bien Erasmus parce que ça apprend aux jeunes à se connaître. Mais c'est la grande illusion. Parce que ça permet à des jeunes anglophones, américanisés, de rencontrer des Français américanisés, des Allemands américanisés, etc. Et donc, ils ont des illusions de se connaître, mais ce sont tous des petits américanophiles qui sont déplacés. Mais la connaissance profonde, vous ne pouvez pas connaître un peuple si vous ne connaissez pas sa langue. Et ça nous rejoint le combat qu'on menait là-dessus. Et donc, quand les gens disent ils sont méchants, mais non, ils ne sont pas méchants, ils sont eux-mêmes. Les Hongrois sont Hongrois, les Slovaques sont... Et donc, vouloir griller une étape, s'imaginer qu'on va pouvoir faire en 50 ans ce que la France a mis 1500 ans à faire, je pense que c'est une grande illusion dont on commence seulement à payer les prix. De l'importance de la connaissance de la géopolitique.
Swing 4G pour Lycéo. Avec Pierre Chevalet, Jean-Marie Roussignol, nous évoquons la géopolitique par l'intermédiaire de l'Institut, par de l'ICEO, et aussi la géopolitique dans l'Union européenne. Alors, vous parliez tout à l'heure, Pierre Chevalet, de la difficulté de, finalement, de se rendre compte pour ces gestionnaires de l'Europe, de la réalité grecque. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en avant dans l'Union européenne ? Plutôt l'économie ou plutôt la culture, Jean-Marie Roussignol ?
Ben, mon point de vue, qui est un modeste point de vue partagé par beaucoup de gens, je pense que on a mis dès le départ l'accent sur l'aspect économique en pensant que c'était le charbon et l'acier au départ, puis d'autres thèmes purement économiques qui pouvaient fonder un regroupement des pays européens, et on a complètement négligé l'aspect culturel. Et là aussi, il y a pas mal de gens qui, maintenant, le reconnaissent, que c'était peut-être un vice de départ qui se traduit maintenant par cette sorte de révolte qu'on voit dans beaucoup de peuples autour, qui considèrent que l'Europe ne prend pas suffisamment en compte ceux qu'ils sont et qu'on veut les fusionner dans un magma plus ou moins informe où leur culture et leur tradition seraient niées et complètement effacées.
Vous êtes en train de nous dire qu'il faut absolument conserver chaque identité culturelle et ensemble, travailler
alors,
ensemble.
Par mon expérience personnelle, que ce soit celle à travers ICEO ou celle de mon passé professionnel de consultant, expert entre guillemets, sur les programmes européens, de la Banque mondiale et d'autres, je suis allé dans pas mal de pays. Et ce qui était important pour moi comme pour nous à ICEO, c'est que lorsque la barrière du rideau de fer est tombée, c'était une chance inouïe pour nous occidentaux de renouer le contact avec des peuples de qui nous avions été coupés pendant longtemps. Et que ce soit en Russie, que ce soit en Moldavie, que ce soit dans tant d'autres pays, je me souviens, j'ai le souvenir, de contacts que j'ai eus avec les gens de ces pays-là, où on se retrouvait sur un passé des éléments de culture commune. Quand vous allez en Russie, que vous montrez aux Russes que vous connaissez la grande littérature russe, là, ça fait tilt tout de suite et ils accrochent. Donc on peut échanger des choses là-dessus. Dans d'autres pays, pareil. J'ai des souvenirs dans différents pays d'avoir passé des soirées extraordinaires avec des gens autour des questions culturelles, de l'amour pour la littérature, de l'amour pour la poésie, etc. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que si effectivement on avait mis l'accent sur l'aspect culturel au moins autant que sur l'aspect économique, on aurait trouvé des points de convergence. Chacun de ces peuples a son particularisme culturel, mais nous avons tous ensemble un certain fond culturel commun, que l'on soit passé par l'Europe chrétienne catholique ou que l'on soit passé par l'orthodoxie à l'Est, il y a malgré tout un fond commun qui repose sur la Grèce antique, qui repose sur un tas de choses. Et donc des éléments de convergence qui pourraient faire que, justement, les échanges entre étudiants qui seraient basés sur ces éléments-là trouveraient davantage de points d'accrochage pour échanger et montrer qu'on a une certaine fraternité commune en dépit de ce qui a pu nous séparer. Mmh. Et que donc, il faut, si on veut faire une Europe forte, il faut revaloriser cet élément-là. Parce que c'est en même temps donné à l'Europe une capacité de résistance plus forte aux influences qui viennent du monde extérieur qui l'environne, où elle est entourée par d'autres peuples qui ont des traditions fortes et dont certains voudraient bien nous les imposer chez nous, en souvenir de certains éléments de l'histoire. Je parlais de la Turquie, par exemple, vis-à-vis des Balkans, mais pas que.
Pierre Chevalet.
Alors, Jean-Marie parle de l'importance de la culture et en disant que l'économie a mangé le projet européen complètement. Mais je crois que surtout, c'est que il y a deux phases dans la construction européenne. La première phase, c'est jusqu'en 1972, là, pratiquement, c'est-à-dire que les pays qui sortent de la guerre reconstituent leur potentiel économique. Et reconstituant leur potentiel économique sans rivalité, pour justement effacer l'ardoise de la guerre. Et ça, ça a été une politique remarquable. La politique de la CEA, ça a été remarquable. Mais cette politique s'est faite dans un cadre qui n'était pas ouvert à tous les vents. Et donc, cette politique, elle a marché d'un point de vue économique. Et les 30 Glorieuses, c'est pas un hasard que ça a été à cette période-là que cette petite Europe avait le vent en poupe. Et ce qui a tout changé, c'est quand à partir du moment où les Européens qui ont pris le pouvoir ont décidé de façon idéologique que l'Europe devait être le marché le plus ouvert sur le monde, et donc parfaite réussite pour les riches, hein, puisqu'on apprend que les milliardaires français se sont enrichis de 21% ces 5 dernières années, donc on est content pour eux, mais on s'aperçoit qu'il y a des tranches entières de la population qui sont de plus en plus pauvres. Et c'est ce fait que d'avoir construit de façon idéologique, mais très intéressée pour les gens qui étaient au pouvoir là-dessus, cette fameuse concurrence libre et non faussée, c'est un a priori complètement idéologique. Il n'y a aucun pays qui fait ça complètement. Les Américains ont mis des taxes sur l'acier chinois énormes pour sauver leur aciérie, parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils aient un peu d'acier pour eux. Et nous, en Europe, on a décrété, la culture qui est plus tournée, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes européens, ils sont pratiquement tous tournés vers la musique américaine, et alors que, regardez, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est l'Eurovision, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, c'est-à-dire que à travers l'Eurovision, il y avait un facteur extraordinaire de reconnaissance de la culture mutuelle. Il suffisait de demander à chacun de chanter dans sa culture, de chanter un rhum, de chanter en rhum, etc. Et de montrer la richesse de cette culture partagée. Et non, maintenant, ils chantent tous en anglo-américain des choses qui sont ridicules. Les paroles, il suffit de traduire pour voir que c'est boum-boum. Alors, c'est une langue où on peut faire de la bouillie facile, parce que tous les gens qui connaissent à peine l'anglais disent « Moi, je chante en anglais parce qu'avec trois mots d'anglais, tu peux faire semblant. » Et c'est ça qui est le drame. Et donc, l'Union européenne a l'obligation de réussite d'un point de vue économique et au niveau social. Or, actuellement, malheureusement, ça ne marche pas aussi bien que les peuples aimeraient.
Aujourd'hui, ça ne marche pas. Est-ce que demain, ça peut marcher? Quelles en seraient les conditions?
Moi, je pense que c'est... Il faut... Là, on se rapprocherait peut-être de l'analyse d'Hubert Védrine. C'est-à-dire qu'il faut avoir une plus grande... il faut être beaucoup plus modeste et au point de vue... et beaucoup moins dogmatique.
Il faut avoir une vision beaucoup plus réaliste des choses et penser, encore une fois, modeste. En termes... il faut accepter que les pays ont un certain égoïsme pour faire valoir leurs propres intérêts, que c'est ce que font tous les autres pays dans le reste du monde, et qu'il n'y a aucune raison que l'Europe se donne des vertus totalement angéliques, etc., et n'accepte pas de défendre ses propres intérêts. Quand on voit dans le système, l'un des mantras de l'Union européenne, c'est celui de la concurrence libre et non faussée. Quand vous regardez cette concurrence libre et non faussée, elle se traduit par un résultat complètement faussé. Il est peut-être libre, mais il est complètement faussé. Imaginez que dans un match de rugby, par exemple, nous sommes un pays où on aime le rugby, dans le sud, que les deux équipes ne pratiquent pas exactement les mêmes règles. Celle qui aura les règles les plus laxistes et les plus souples l'emportera forcément sur celle qui est paralysée par des règles plus serrées. Donc, je pense que... pour revenir à l'aspect géopolitique, il faut penser à ces éléments-là. Et en même temps, bien connaître l'histoire. La géopolitique repose sur une connaissance de l'histoire. Prenons l'exemple de l'Ukraine, par exemple, si vous voulez bien. On voit dans quelle querelle on est à propos de l'Ukraine, et on voit malheureusement dans quelle situation se trouve l'Ukraine. Mais quand on regarde l'histoire de ce pays, on voit que d'une part, il a été à la source de la Russie. La première Russie, c'était, Kiev. Elle est partie de Kiev, c'était la Russie de Kiev, avant d'être la Russie de Pétersbourg et puis de Moscou. Et ça, on le méconnaît. Et donc, on s'étonne qu'il y ait une partie de l'Ukraine qui penche vers la Russie et qui se soit insurgée contre le fait qu'on voulait lui imposer une autre façon de fonctionner, avec un gouvernement actuel dont les origines sont un peu douteuses aussi parfois. Mais on oublie aussi que l'Ukraine comprend trois parties. Une qui est normalement russophone et russophile, mais aussi une partie qui a été polonaise et une autre partie qui a été austro-hongroise, du temps de l'Empire austro-hongrois. Alors, il y a certainement un particularisme ukrainien, mais il y a aussi ces diverses influences qui jouent. Et là aussi, si on considère en géopolitique que l'Ukraine occupe une certaine position entre la Russie, la Pologne et les pays un peu plus nordiques et les pays d'Europe centrale, ouest, qui ont été austro-hongroises, il y a des intérêts un peu divergents et qu'il aurait fallu trouver un point de convergence entre tout ça plutôt que de les braquer systématiquement les uns contre les autres. Et c'est pareil pour l'ensemble de l'Europe. Si on pense aux Balkans, là aussi, on a...
À vous entendre, je m'aperçois que c'est aussi une question de culture de nous, Français, des anglo-saxons aussi. Une culture qui ne fait pas la part belle à ces pays-là.
Donc, ça, c'est pas une question de culture. Je pense que le drame de la géopolitique actuelle, c'est l'inculture. Je veux dire que les gens qui ont attaqué... Qui ont participé au Moyen-Orient et qui avaient des solutions toutes faites, ils avaient une méconnaissance complète. Et donc j'invite tous les gens à lire l'histoire de Atatürk et de lire de Ibn Saoud. Quand vous lirez la vie de ces deux personnages, celui qui a créé l'Arabie Saoudite et celui qui a créé la Turquie moderne, vous comprendrez d'où ils viennent. Et quand, sachant que ces deux peuples, que ces deux sphères géographiques ont eu cette histoire, il était évident que ce qui se produit actuellement en Iran se passerait comme ça se passe. C'était écrit. Parce que les gens ont une connaissance longue. Peut-être j'ai déjà raconté cette histoire, mais on a du mal on vit dans un monde trépidant, on a du mal à imaginer que les gens soient influencés par des décisions très, très prises longtemps. Et donc j'étais dans les Pyrénées, je marchais dans les Pyrénées pour la Saint-Jean. Et il faut savoir que les troupeaux catalans, espagnols, depuis de nombreuses années, viennent à la transhumance et ils viennent manger l'herbe dans les Pyrénées du côté français. Et donc, moi j'ai assisté à cette transhumance qui est assez magnifique et extraordinaire. Et j'étais avec des amis de Prats de Molló. Et comme c'est une région frontalière et que ma belle-mère était une grande résistante et qu'elle faisait passer des gens pendant la guerre, donc moi m'est venu à l'idée de demander aux gens qui étaient là avec ces troupeaux si la transhumance avait duré pendant que les Allemands étaient là. Je dis, mais en 42, quand ils sont arrivés, après le 11 novembre 42, donc en 43, est-ce que en juin 43 et en juin 44, est-ce que la transhumance a eu lieu? Et le berger se tourne vers les autres amis catalans et il fait, qui c'est cet homme-là, ce gabatch, inculte? Mais je dis, mais comment, ça a eu lieu? Mais il dit, mais bien sûr, ça a eu lieu. Quelle idée, ça a eu lieu, bien sûr. Mais je dis, mais comment ils ont fait? Mais monsieur, le traité des Pyrénées, à cause du traité des Pyrénées, c'était pas impossible, c'était impossible d'empêcher les troupeaux de passer. Donc vous imaginez que dans la tête d'un berger catalan, un texte qui a été signé en 1649, hein, c'est ça? Oui. Ouais.
Explique toujours la
explique
situation.
La géopolitique. Mmh. Alors, ce qu'un berger des Pyrénées a rentré dans son cerveau pour comprendre la géopolitique, je pense qu'un président américain ou un président français aurait dû l'intégrer aussi, l'histoire.
Encore faut-il le vouloir?
Faut imaginer l'importance que ça a. C'est-à-dire
oui.
que, voilà.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, actuellement, il y a un drame au niveau européen. C'est-à-dire qu'on mythifie toutes les cultures régionales. Au cas où ça vous aurait échappé, dire je suis fier de vos bretons, c'est de bon ton maintenant. Alors que pendant des années, dans toute mon enfance, un mec qui disait qu'il était breton, bretonnant, c'était un plouc. Maintenant, d'ailleurs, on ne voit plus que des drapeaux bretons dans toutes les manifestations. Donc les Corses sont fiers d'être Corses, les Bretons sont fiers d'être Bretons, les Basques sont fiers d'être Basques, tout le monde est fier d'être ce qu'il est. Bon, et les Catalans, n'en parlons pas, ils sont deux fois plus fiers. Bon, et donc les instances européennes disent qu'il faut absolument respecter cette fierté d'être catalan, mais la fierté d'être français, bizarrement, c'est devenu une
tare
rédhibitoire. Donc là, il y a une étape qui manque là. Hein.
Et y a-t-il une fierté à être européen?
Mais attendez, quand vous avez un club de football qui a 100 ans d'histoire, les supporters, ils sont fiers de l'histoire du club. Donc si le club il fait alliance comme, par exemple, le Racing et Stade Français, ils font plus qu'un seul club. Avant que ces deux clubs mariés entre eux puissent avoir le même engouement pour les supporters que les supporters des deux clubs séparés, il faut laisser passer quelques victoires et quelques années.
Il faudra donc aussi que l'ICO fasse d'autres émissions sur Radio FM+, pour nous vulgariser cette complexité européenne.
La géopolitique, c'est tous les matins quand vous vous levez, il faut y penser, parce que si on n'achète plus vos produits, vous perdez beaucoup de...
Voilà. Merci Jean-Pierre, Jean-Marie Roussignol et Pierre Chevalet pour l'ICO de nous apprendre à manier cette Europe, à être un peu plus à l'aise avec ces notions d'Europe orientale.
Être critique vis-à-vis d'Europe, c'est être plus européen parce que c'est bien la connaître.
Absolument.
On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne connaît pas.
L'histoire et la géographie sont des matières très importantes. Malheureusement, on a tendance à les négliger maintenant, sinon à les estomper de nos systèmes scolaires, alors que c'est le fondement d'une perception objective et critique des situations que vivent nos pays.
Ah ben, voilà. Tu fais bien de parler de ça, parce que les programmes scolaires actuels où on fait apprendre aux enfants des choses très intéressantes, l'histoire du royaume du Mali, c'est sûr que c'est très intéressant, mais au niveau de l'Union européenne, l'importance du Royaume du Mali est moins essentielle que la connaissance de l'histoire de tous les pays d'Europe. Ouais. Parce que savoir qu'il n'y a pas de cadastre en Grèce, ça pouvait être utile pratiquement.
Merci à tous les deux et à bientôt pour une nouvelle émission.
Merci, à bientôt.